الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، avant de rentrer dans le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire le nouveau chapitre, il nous restait à voir le quatrième point du chapitre précédent, d'accord ? Et je voudrais que vous me rappeliez après, Inch'Allah, à la fin, on m'a demandé de faire une annonce pour une fête concernant l'Eid qui est organisée en guise de collecte pour le Majid Sunna, hein, pour le projet de Majid Sunna que vous connaissez tous. C'est-à-dire que les frères ici, on a un projet de construire, Inch'Allah, une mosquée avec une nouvelle école, Anis Salafia, une école primaire, ainsi qu'un collège. Des pompes funèbres, hein, où on peut, Inch'Allah, laver les morts, etc. Et je vous assure qu'on en a besoin. Moi, j'ai déjà été dans des morgues ici, et c'était dans des mosquées soufis, et je peux vous dire qu'on n'avait pas le choix. Et c'est ce que vous voyez là, et les bid'a que vous voyez là, Allah al-Musta'an. Hein, et même, je dirais, shirkiyat. Hein. Donc, on va en parler en plus, en détail, à la fin. À la coulée hal, on m'a donné une annonce à faire pour le jeudi 18 novembre, et d'expliquer qu'est-ce qui va se passer, où ça se passe, l'adresse, etc. Donc rappelez-moi à la fin du cours, je pense que c'est mieux de le faire à la fin, Inch'Allah. Après ça, maintenant, on rentre dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, qui sait me rappeler le titre du chapitre, l'intitulé du cours de la fois passée, qu'on resitue un peu le cadre de ce qu'on a fait. Ouais, c'est exactement... Wujub al-qira'a fi sirriya. D'accord ? On a vu que la vie que Cheikh Bazmoul rend le plus fort, c'est quoi ? C'est qu'il faut réciter la Fatiha, comme ça. Il faut tout le temps la réciter. Il faut la réciter dans tous les cas. C'est-à-dire, si tu pries tout seul en tant que munfarid, ou si tu pries en tant qu'imam. Hein? Évidemment, si tu pries derrière l'imam à voix basse et à voix haute, donc dans les prières à voix basse et les prières à voix haute. Et il nous restait donc, comme j'ai dit, un quatrième point à lire. C'est le quatrième ou c'est le cinquième? Quatrième, ok. Bien, il reste 4 et 5, donc, frère, Inch'Allah. Le cours d'aujourd'hui, il était censé être un peu plus court que d'habitude et je l'ai fait plus long que d'habitude. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais en profiter. On est samedi soir, on est un peu plus libre que d'habitude, on est entre frères, on va faire une petite nasiha à la fin sur un sujet qui n'a rien à voir avec le livre. Hein? Je vous laisse deviner c'est quoi le sujet, Inch'Allah, pour un peu entretenir le suspense, Inch'Allah. Et c'est une technique que Cheikh Mohamed Ben Ramzan al-Hajiri l'avait utilisée quand il était venu ici. Vous savez ce qu'il a fait quand il a donné le dernier cours? C'était quoi le sujet des derniers cours? Hein? Sur l'ennemi de l'individu. Elle avait fait courir le bruit qu'il y avait un cours sur une mes'alat, parmi les choses les plus importantes. Ouais, évidemment, vous avez vu le monde qu'il y avait ce jour-là, au cours, hein? Il a suscité l'intérêt. D'accord? On va essayer de faire la même chose, Inch'Allah, on va garder le sujet pour la fin. Donc, quatrième point, le mes'alat al-rabi'a, tiré du chapitre concernant l'obligation de lire la fatiha, de réciter dans les raka'at, les unités de prière à voix basse, أن المصلي في صلاته إنما يناجي الله عز وجل وأنه عليه أن لا يشوش على غيره من المصلين في هذه الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجر بعضنا على بعض بقراءة القرآن. On avait déjà lu celui-là, non? Si, si, quand j'avais parlé de Cheikh Taqeddin Hilali, non? On n'avait pas vu? Ok. فَالتَّشْوِيشُ فِيهَا بِغِيرِ الْقُرْآنِ يُنْهَى عَنْهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَالدَّلِيلُ حَدِيثُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الْمُصَلِّ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلَا يَجَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. Oui, je voudrais que les sœurs ou les gens qui sont sur Paltol, que les sœurs qui sont à l'arrière, qu'ils n'entendent pas, qu'ils nous le fassent savoir, Inch'Allah. Donc, quatrième point, quatrième affaire, on commence ici que le prieur, lorsqu'il est en état de prière, est en confidence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Yunaji rabbahu. Il se doit donc de ne pas déranger par sa prière les autres prieurs. Ça, c'est Allah, il faut faire attention à ça. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit que l'on élève nos voix les uns au-dessus des voix des autres en récitant le Coran. Dérangé par autre que le Coran, donc, entre en premier lieu dans l'interdiction. Ça veut dire que si c'est déjà interdit pour le Coran, même comme on dit en arabe, une babi aula, qu'en est-il alors, si vous voulez, qu'en est-il alors de ce qui est autre que le Coran? Le cheikh ici, c'est une preuve. Il dit la preuve de cela est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La personne en prière est en confidence avec son Seigneur. Qu'elle fasse attention à la manière dont elle le fait. D'accord? N'élevez donc pas la voix les uns au-dessus des autres lorsque vous récitez le Coran. Le bénéfice que l'on tire de ce point, Cheikh va dire, le bénéfice qu'on tire de ce point, وفائدة هذه المسألة تظهر إذا تذكرنا أن ضابط القراءة الجهرية أن يقرأ القرآن محركا شفتيه أن يقرأ القرآن محركا شفتيه ولسانه مسمعا ما هو قريب منه وضابط القراءة السرية أن يحرك شفتيه بالقرآن مسمعا نفسه. On avait déjà lu ça, je me souviens, Allah alama. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجزئ القراءة بتحريك اللسان والشفتين ولو لم يسمع نفسه. ومعنى هذا الكلام أن المصلي في الصلاة السرية قد يحدث منه رفع الصوت أحيانا بشيء من القرآن ومنه الذكر فينبغي أن يحرص على أن لا يشوش على غيره لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ومنه تعلم خطأ ما يفعله بعض الناس من أنه في القراءة السرية أو حينما يكونون خلف الإمام ويقرؤون سورة الفاتحة لا يحركون لسانهم ولا شفتيهم وهذه الحالة منهم لا تعد قراءة في الشرع ولا في اللغة لأنه بدون حركة اللسان والشفتين لا يقال على الإنسان أنه قارئ. فالذي يقف في الصلاة لا يحرك لسانه وشفتيه في قراءة القرآن ولا في قول الأذكار في الركوع والسجود أو بدعاء الاستفتاح لا يقال إنه قارئ ولا يقال إنه ذاكر فيخرج من الصلاة كما دخل بلا أجر ولا حضور وقراءة ولا ذكر. Donc qu'est-ce que Cheikh rapporte ici concernant ce point? Il dit que on a dit la preuve, c'était quoi? C'était que le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la personne en prière est en confidence avec son Seigneur. Qu'elle fasse attention à la manière dont elle le fait, n'élevez donc pas la voix les uns au-dessus des autres lorsque vous récitez le Coran. Et Cheikh tire une faïda de ça. Il dit, le bénéfice que l'on tire de ce point est apparent lorsqu'on se rappelle que lire à voix haute, c'est quoi? De réciter le Coran en bougeant les lèvres et la langue et faisant entendre à celui qui est proche. C'est-à-dire que toute personne qui est proche peut l'entendre. Et lire à voix basse, c'est de bouger les lèvres en récitant le Coran, en se le faisant entendre à soi-même. D'accord? Et maintenant, il rapporte l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, l'avis préféré par Ibn Taymiyyah, rahimahullah, est qu'il est suffisant de réciter en bougeant la langue et les lèvres même si on ne se fait pas entendre à soi-même. D'accord? Le sens de cela, c'est que le prieur dans une prière à voix basse il se peut qu'il arrive qu'il lève la voix de temps en temps en récitant le Coran et en invoquant. Il lui incombe donc de faire attention, de ne pas déranger autrui. Et ça, on va arriver dans le chapitre juste qui suit sur le même genre de bénéfice et que ça revient toujours à la même chose. Le fait que l'insan ne doit pas être ghafil dans la salah. Et des fois, quand on voit certains frères prier, quand on se voit prier, subhanallah, est-ce qu'on vraiment est attentif à ce qu'on fait? Et qu'on se rappelle le hadith du prophète salam, prie, comme si quelqu'un il fait son taudir. En français, on traduit ça par faire ses adieux. Donc, j'aime pas cette expression en français parce que adieu, nous croyons en adieu. Les adieux en français, c'est avec un X à la fin. D'accord. Donc, c'est quoi ça veut dire littéralement de faire quoi? Quand on part en voyage, on fait taudir. Vous connaissez ça? Eh bien, c'est-à-dire que tu pries. Comme si c'était quoi? C'est ça que ça veut dire. Comme si c'était ta dunya. Allez, comme si tu quittais dunya. Allez, billah alaykoum. Comment elle serait notre prière? Moi, je me mets dans le sac aussi. Comment est-ce qu'elle serait notre prière si on se rappelait ou si on priait comme si on quittait le monde? Alors que chaque prière parmi nos prières, elle devrait être comme ça. Wallah, yani, c'est une nasiha pour moi avant tout et pour nous tous yani, ici. C'est pour ça l'importance de ce genre de cours. C'est le rappel. Le rappel, il profite aux croyants. Le rappel, il ne se sent pas mal par rapport aux croyants. C'est vrai que ça peut faire mal dans le sens où on sent qu'on a mal fait. Mais alhamdulillah, rahmatullah azulillah, tawba, elle est possible. Et justement, c'est bien de savoir pour changer. Et Bilqim, rahimahullah, il a dit une belle parole dans le fawaid. Il a dit que le temps, il est divisé en deux. Il y a le temps qui est passé et le temps qui reste. Le temps qui est passé, on s'est récupéré quelque chose, on s'est changé quelque chose, c'est trop tard. Tout ce qu'on sait faire, c'est l'istighfar et tawba. Et un temps qui nous reste, on sait combien il nous reste là. Donc moi je dis ça ici, pourquoi? Et c'est une des raisons pour laquelle, malgré le fait que je suis très occupé, j'ai vraiment voulu, j'ai fait tout pour reprendre ces cours. Et j'ai demandé conseil à certains des frères ici, etc. Je les ai consultés là-dedans. Annie, parce que moi déjà, ça me bénéficie à moi-même en préparant les cours. C'est un rappel déjà pour moi. Parce qu'en préparant les cours, évidemment, moi j'apprends des choses aussi. Et ça me rappelle. Ça me fait un rappel. Et pour les frères ici aussi, regardez la rahma d'être autant de frères ici dans une mosquée. Parmi les mosquées d'Allah Azzawajal, les demeures d'Allah Azzawajal. En plus, une mosquée des gens de la sunna. Pour se refaire justement ce genre de rappel, essayer que, tant qu'on peut, de se rappeler, de changer surtout, de se rappeler systématiquement, continuellement, comme j'ai dit dans le cours passé, le tafsir sourate al-Asr, vous vous souvenez? Et comme ça, Inch'Allah, de semaine en semaine, on a au moins deux cours par semaine. Puis vous avez la Jumu'ah, vous avez les cours avec nos frères, Hafidahumullah, Jami'an, Abu Talha, le lundi, Sharh Sunan al-Barbahari. Vous avez les cours qu'on fait ici le mardi, au Sul Sita. Vous avez mercredi qui? Abu Hakim, Sharh Hamdat al-Ahkam de Sheikh Najmi. Regardez les livres qu'ils choisissent. Lundi, vous avez l'Aqida. Mardi, vous avez encore l'Aqida al-Manhaj. Mercredi, vous avez tout ce qui rentre dans le fiqh. Naam. D'accord? Et puis jeudi, vous avez encore Abu Talha avec Riyad Salihin. Allahu Akbar. Raqa'iq. Quel livre, Riyad Salihin? Ça fait combien d'années? On va demander aux frères qui sont plus anciens. Ça fait au moins 3-4 ans, non, Mourad? Plus que ça, on me dit que le frère est occupé dans ce livre-là. Hafidahullah. Puis vous avez vendredi, Sharh Aqidat l'imam Mohamed al-Wahhab avec Abu Khadija. Samedi, encore un cours. Que les frères, ils croient que c'est pour les sœurs. Que les sœurs, c'est pas que pour les sœurs. C'est aussi pour les frères. Mais c'est des masaïl qui touchent plus le mariage, les problèmes familiaux, etc. C'est pas que les sœurs qui sont concernées, loin de là. Et dimanche encore, le même sujet si je ne me trompe pas, c'est dimanche aussi à Abu Hakim. Yani, c'est-à-dire que si on veut, on peut rentrer dans une situation où on n'oublie pas l'alhamdoulilah. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce que chaque jour, en tout cas chaque fois qu'on peut venir dans la scène, on a un rappel. Donc ici, regardez, ici, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il ne faut pas être insouciant, il ne faut pas être rafil, il faut être attentif dans la prière. Et comme on va le voir plus tard dans le cours, c'est attentif avec le cœur, attentif avec le corps et attentif avec le nefs. C'est pas que le corps qui est présent. Attention, fais attention. Est-ce que moi je dérange pas les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je prie bien? Est-ce que chaque geste que je le fais? Évidemment, sans rentrer dans le wuswas encore une fois. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien ma prière? Est-ce que je suis bien concentré? Est-ce que je me rappelle que je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me pose la question, c'est peut-être ma dernière prière, est-ce que je l'ai priée comme si c'était ma dernière prière? Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier ici, dans ce genre de pays, on oublie un peu la mort. Hein? Et c'est fait exprès. On nous cache. On ne parle pas de ça. Il n'y a pas de janaza dans la rue, des gens qui marchent dans la rue. Hein? Derrière un cercueil, un linceul. Hein? Même si ici j'utilise des cercueils, etc. Mais quand vous allez voyager dans les pays arabes, hein, c'est pour les frères Katola Umrah dans d'autres pays musulmans, et bien vous voyez, la faïda de suivre une janaza, de prier sur un mort, puis de suivre la janaza à pied jusqu'à le baqi'a, hein, et puis ensuite de l'enterrer. Moi je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, en tout cas c'était en Jordanie, et je vous assure, Allah, ce jour-là, ça m'a fait un grand bien. Parce que je suis rentré dans la tombe, et moi je suis ressorti, lui il est resté. D'accord? Donc, on est là pour se rappeler. On ne va pas vivre ici éternellement. Hein? Peut-être demain, salat ala Mahdi, salat ala Foulan. Hein? Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un frère de la mosquée ici, 34 ans, il est mort. Hein? Omar Rahimahullah, un frère jamaïcain. Il était ici, prié avec nous à la mosquée, etc. Il est mort, Rahimahullah. Il est mort dans son lit, tout simplement. Hein? Annie, c'est... Alhamdoulilah, je vois que les visages ils sont un peu touchés par ce que je dis, c'est bien, c'est un bon signe. Inch'Allah, on s'en joigne à ça. Parce qu'à la fin du compte, on ne sait pas quand on va partir, comme je l'ai dit. Eh bien, il convient donc d'essayer de se préparer au maximum. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh, ici? Il dit, en invoquant, il lui incombe donc de faire attention de ne pas déranger autrui, dans la prière à voix basse et la prière à voix haute. Par cela, tu connaîtras l'erreur commise par ceux qui, dans la récitation à voix basse, ou lorsqu'ils récitent derrière l'imam la Fatiha, ne bougent ni leur langue, ni leurs lèvres. Ceci n'est pas considéré, dans la législation islamique, ni dans la langue arabe, comme une récitation. Car il faut absolument bouger la langue et les lèvres, et on ne dit pas de quelqu'un qui ne la fait pas, qui ne le fait pas à fond, qu'il récite. Et on ne le considère pas comme quelqu'un qui est en train de réciter. Celui qui se tient debout dans la prière sans bouger la langue ni les lèvres lors de la récitation du Coran ou une invocation dans la prosternation et l'inclinaison ou une invocation d'ouverture, eh bien on ne dit pas de lui qu'il récite ou qu'il invoque. Il sort donc de sa prière comme il y est entré. Regardez maintenant justement le contraire quand on est insouciant. Vous voyez quand on est insouciant, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Hein? Eh bien, regardez quoi? Il rentre dans sa prière, il est en train, enfin, il sort de sa prière comme il y est entré. Qu'est-ce qu'on comprend par cela? Eh bien, sans récompense, ni présence, ni lecture, ni invocation. Vous voyez, ce n'est pas une mince affaire, ya ikhwa. Il faut vraiment faire attention à être concentré sur. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, wallah, Cheikh Al-Fawzan, subhanallah, il a des paroles comme ça qui sont. Il est toujours fait mahalliha. Hein? Et que si courte mais puissante. Cheikh Al-Fawzan, parmi les paroles comme ça que j'ai retenues de lui, il dit quoi? Il dit, si tu veux savoir, comme un thermomètre si vous voulez, si tu veux savoir le degré de ta relation avec Allah Azza wa Jal, regarde ta prière. Khalas, fini. Ah, ça c'est puissant, ya ikhwa. Wallah, quand tu réfléchis un peu, tu te dis, quand tu vois ta prière, tu te dis, subhanallah. Bien voilà ta relation avec Allah Azza wa Jal. Cinquième affaire, cinquième point tiré du chapitre, le dernier, المسألة الخامسة. في هذا الفصل بيان أجر قراءة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Et un frère qui m'avait posé la question, on va voir ça en détail aujourd'hui par rapport à ça, pour bien voir qu'est-ce que ça veut dire. قال العلماء معنى هذا الحديث أن لقارئ القرآن بكل كلمة من كلمات القرآن أجر والحسنة بعشر أمثالها. له في كل كلمة. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh ici. Il va expliquer après. C'est chaque mot, c'est pas chaque lettre. Chaque mot. كل كلمة يقرأها حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فله بقراءة سورة الفاتحة. Regardez, vous allez comprendre. الحمد لله. الحمد كلمة. ولله كلمة. الرحمن كلمة. الرحيم كلمة. كلمة مالك كلمة. يوم كلمة. الدين كلمة. ينضم سور الرحيم ici. Vous avez ça aussi. Corrigez ça, inshallah. وليس المراد بالحرف حرف الهجاء. لدخل الفابيكم والفور إن شاء الله. فلا يقال الحمد لله فيها 19 هذا لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألف حرف ولام حرف، ومعلوم أنه لو أراد حروف الهجاء لكان في ألف 3 وفي لام 3. والآية إنما ذكرت أسماء الحروف، فتنبه. قال ابن الجزري رحمه الله، ثم ذكر قولا لابن الجزري الإمام رحمه الله. On traduit d'abord ça. Il y a dans ce chapitre la mise en évidence de la récompense pour la lecture du Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit ou récite une lettre du Coran a une récompense, et chaque récompense équivaut à 10 récompenses. Je ne veux pas dire que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Évidemment, nous, ce qu'on va penser, c'est quoi? C'est la lettre elle-même, ça, hein? Eh bien, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Les savants ont dit, le sens du hadith est que le lecteur du Coran a pour chaque mot du Coran une récompense. Kullu kalimatin. Hein? Mot. Et chaque hasana est multipliée par 10. Chaque mot qu'il lit, il a une hasana qui est multipliée par 10 dans sa lecture d'Al-Fatiha. Il a donc Alhamdu, un mot. Alillah, un mot. Ar-Rahman, un mot. Ar-Rahim, un mot. Malik, un mot. Yawm, un mot. Etc. Ad-Din, un mot. Et ainsi de suite. Il y a donc pour chaque mot une hasana qui est multipliée par 10. Ce qui est voulu dans le hadith par lettre, ce n'est pas la lettre alphabétique. C'est quoi donc? On ne dit pas que donc Alhamdulillah c'est 9 lettres. Hein? Ou 10 lettres. Ceci n'est pas correct, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Alifon est une lettre et Lamon est une lettre, et il est connu que s'il voulait dire par là la lettre alphabétique Alif, eh bien c'est que quoi? Il leur dit qu'Alif donc a 3 lettres. Pour les frères, hein, regardez, imaginez-vous, écrivez Alif dans votre tête. Il y a combien, dans le mot Alif, si vous voulez, il y a combien de lettres? 3. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Fa. Alifon. Al-Hamza, Afon. Al-Hamza, Lam et Al-Fa. Ça fait 3 ou pas? C'est ce qu'il dit le cheikh ici. Il dit, et Lam également 3 lettres. Et le verset n'a cité que les noms des lettres. D'accord? Je dirais le hadith, non? Cheikh, il a dit, c'est le hadith ici, c'est le hadith qui a cité que les noms des lettres. Ou en tout cas, même le verset, ça. Fais donc attention à cela. Et puis, c'est une parole d'Ibn al-Jazari, qui est décédé en 833 de l'Égypte, rahimahullah. Il dit, rahimahullah, fi akhir kitab yan nasr fi al-qira'at al-ashr, fi al-fasl al-ladi aqadahu fi umurin tata'allaku bi khatmi al-Qur'an, wa qad sa'altu sheikhana, sheikh al-Islam bin Kathir, rahimahullah ta'ala, wa wa sahib al-tafsir al-mashhur. Ma al-muradu bil-harf fi al-hadith, يعني هذا المذكور هنا، فقال الكلمة. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الذي ذكره هو الصحيح، إذ لو كان المراد بالحرف حرف الهجاء لكان ألف 3 ولام بثلاثة وميم بثلاثة، وقد يعسر على فهم بعض الناس، فينبغي أن يتفطن له فكثير من الناس لا يعرفه. ثم ذكر أنه رأى أبا العباس بن تيمية يقرر هذا في كتابه على المنطق، فقال: وأما تسمية الاسم وحده كلمة، والفعل وحده كلمة، والحرف وحده كلمة، مثل هل وبل، فهذا اصطلاح مختص ببعض النحاة، ليس هذا من لغة العربي أصلا. فسأغيت لهم كنتينيو غابخي إن شاء الله. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous rapporte une parole d'Ibn al-Jazari, l'imam, rahimahullah, hein, pour les frères qui ont fait un petit juif, ils le connaissent, décédant 833 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit à la fin de son livre, Al-Nashr fil qira'at al-Ashr, ce qui concerne les 10 récitations, dans le chapitre qu'il a consacré à des choses liées à la compilation du Coran, j'ai demandé à notre shir. Et c'est qui son shir ? Shir al-Islam Ibn Kathir, rahimahullah, qui est décédant 749 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui est l'auteur du fameux Tafsir ibn Kathir. Ce qu'on appelle nous en tout cas par Tafsir ibn Kathir. Il, donc il lui a demandé quel est le sens de la lettre dans le hadith, c'est-à-dire celui qu'on a précité. Il répondit, Al-Kalima, le mot. Et ce, en raison du hadith d'Ibn Mas'ud, celui qui lit ou récite une lettre du Coran a une récompense. Et chaque récompense équivaut à 10 récompenses. Je ne veux pas dire qu'Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Ce que le cheikh a cité est ce qui est juste. Car si le sens de lettre était la lettre de l'alphabet, Alif serait alors 3 lettres. Et Lam 3, ainsi que Mim. Et il se peut que ce soit difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Ils font donc être attentifs à cela, car beaucoup de gens ne le savent pas. Puis il a ensuite rapporté qu'il a vu dans un livre d'Ibn Taymiyyah, qui concerne le mantiq, qu'il disait cela. Le fait d'appeler le nom seulement un mot, c'est Ibn Taymiyyah qui parle maintenant, le fait d'appeler le nom seulement un mot, et le verbe seulement un mot, et la préposition seulement un mot, comme par exemple bel et hel, hein, voyons encore une fois l'importance de la langue arabe. Ceci est un jargon spécifique à certains grammairiens. Elle ne fait pas partie de la langue arabe à la base. D'accord ? Il continue en disant وإنما تسمي العرب هذه مفردات هذه مفردات حروفا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام يعني ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولدي عليه محقق العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحده والفعل وحده وحرف المعنى بقوله ألف حرف وهذا اسم ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن المنطق بالزاي من زيد فقالوا زاي فقال نطقتم بالاسم وإنما الحرف زه ثم بسط الكلام في التقرير ذلك هو واضح على كل حال on rentre un peu technique ici. Il dit donc le fait d'appeler le nom, comme on a dit, hein, seulement un mot, et le verbe seulement un mot, et la préposition seulement un mot, comme hal et bel, et bien ceci c'est un jargon spécifique à certains grammairiens. Elle ne fait pas partie de la langue arabe à la base. Et il dit, les arabes appellent ces mots lettres. Et fait partie de cela, le hadith, puis il a cité le hadith qu'on a précité, ce qui est suivi comme avis par les gens de précision, parmi les ulama, les muhaqqiqoun, c'est que le sens de lettre ici, c'est le nom seulement, et le verbe seulement, et la préposition seulement. En résumé, avec toutes ces discussions, qu'est-ce qu'on doit retenir, nous ? Qu'est-ce qui est voulu ici par lettre ? C'est pas la lettre alphabétique, c'est quoi ? C'est le kalima, c'est le mot. C'est ça que nous, on doit retenir. Pour les frères qui ont un peu plus facilité dans les termes, les terminologies en grammaire, hein, ben, alhamdoulilah, ils peuvent retourner aux sources qu'on a citées, ils peuvent lire le kalam ici. Maintenant, on rentre dans un nouveau chapitre, et c'est « At-ta'minu wa jahru l'imam bihi ». L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est Cheikh l'Albani, rahimahullah, il dit le fait de dire Amin et le fait que l'imam le dise à voix haute. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث آخر فقولوا آمين يحبك الله. J'ai pas eu le temps de vérifier si c'était le hadith, s'il n'y a pas une faute de frappe ici, c'est yuhibbukum Allah ou yuhibbak Allah. C'est peut-être une petite recherche pour vous, j'essaierai de le faire pour le prochain cours, inshallah. Wa kana yaqul ma hasadatkum al-yahud ala shay'in ma hasadatkum ala al-salam wa al-ta'min khalf al-imam. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah nous rapporte un nouveau chapitre qu'il a placé sous le, ou en tout cas que nous on place ici sur le titre et qu'il a placé lui-même sur le titre, le fait de dire Amin et le fait que l'imam le dise à voix haute. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, hein, avait fini de réciter la Fatiha, il disait Amin. Amin à voix haute et en allongeant les voyelles. Il ordonnait aux gens en prière derrière l'imam de dire Amin tout de suite après que l'imam l'ait dit. Lorsque l'imam a fini de réciter, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, dites Amin. Et on va voir exactement quand il faut le dire et comment il faut le dire. Parce qu'il y en a quelqu'un qui doit directement se poser la question. Hein? Je crois que c'est là. Les trois volumes, je crois que sont là-bas. Tu auras plus facile. C'est bien que le frère cherche directement, comme ça on a la réponse directement. Comment est-ce qu'on fait? Regardez la question. Tu dois te poser la question directement. Comment est-ce qu'on fait pour dire en même temps que l'imam et en même temps le dire directement après lui? Eh bien, Cheikh Bezmoul, il a eu l'occasion, la ni'ma, de rencontrer Cheikh Al-Albani. Il lui a posé la question, il va le rapporter après, Inch'Allah. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Non pas de ceux, la traduction de surat al-Fatiha de ce verset-là, non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés, dites Amin. Car les anges disent Amin et l'imam dit Amin. Et dans une autre version du hadith, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Et celui dont le Amin, c'est-à-dire le Ta'min, coïncide avec celui des anges, et dans une autre version encore, lorsque l'un d'entre vous dit Amin dans sa prière et que les anges dans le ciel disent Amin, en même temps, eh bien ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. C'est une sunna sur laquelle Cheikh Al-Albani rahimahullah il insistait beaucoup. Dans notre hadith, dites Amin et Allah vous aimera. Ou Allah t'aimera. Et bien ça, on va voir quand le frère il va vérifier ici, Inch'Allah. Hein? Il disait également, les juifs ne vous ont pas envié pour une chose plus qu'ils ne l'ont fait pour le salam, le salut, et le fait de prononcer Amin. C'est-à-dire le fait de dire Amin derrière l'imam. Maintenant, l'explication de Cheikh Bezmoul, hafidahullah, sur ce passage-là ou de ce passage-là. هذا الفصل فيه مسائل وهي التالية. Il dit donc ce chapitre contient les points suivants comme il fait chaque fois, d'accord? Et ils sont les suivants. المسألة الأولى التأمين وهو قول آمين معناه في اللغة اللهم استجب. Pour les gens qui ont fait un peu de grammaire aussi, comment on appelle ça آمين? اسم فعل أحسنت اسم فعل. اللهم استجب وقيل معناه سبحانك يا الله وقيل معناه يا الله والمصلي إذا سمع الإمام يقرأ الفاتحة ثم وصل إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين سن له أن يقول بعد هذه آمين كما كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc vous voyez que j'avais raison la cour passée quand je vous ai dit que ce livre, en fait, chapitre par chapitre, c'est comme si on faisait quoi? Le détail du hadith. Sallu kama ra'aytumuni wa salli. Parce qu'on doit savoir comment. Prier comme vous m'avez vu prier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et tout ce qu'on fait, du premier cours qu'on a fait, il y a plus d'un an maintenant, hein, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin, inchallah, ce sera toujours sous ce hadith-là. Et d'ailleurs, pour les frères qui ont le livre, il est sur la... sur la couverture, pour le livre de Cheikh Al-Albani, je parle. Hein? D'accord? Tu veux, le titre en arabe ou tu l'as? Hein? Donc, qu'est-ce qu'on tire de ce premier point tiré du chapitre? Eh bien, Cheikh, il dit, hafidahullah, ce chapitre, comme on a dit, contient les points suivants. Premier point, le fait de dire Amin et son sens linguistique, c'est-à-dire dans la langue arabe, c'est Allahumma. Stajib. Alors moi, je me suis permis de faire une petite recherche au niveau de l'Allahumma. Hein? Cheikh, il dit, Allahumma stajib, c'est-à-dire si tu voulais, oh Allah, exauce. Hein? Eh bien, rappelle, Allahumma, comme dit Cheikh Al-Uthaymeen, Eh bien, c'est quoi? On va commencer par la parole sur l'Éthiopie. Le Cheikh l'Éthiopie, rahimahullah, qu'Allah le préserve et le fasse miséricorde, il nous explique que Allahumma, que la lettre mim, Allahumma, la lettre mim. Alors, hein? C'est où? En haut à gauche. Là, il y a encore une autre erreur. Allah alam. Moi, j'ai vu dans le livre de Cheikh Bazmoul, pour les frères qui n'ont pas suivi, « Faqoulou amin yuhibbak Allah ». Moi, ça m'a posé une question. « Qoulou yuhibbaka ». Vous cernez un peu ou pas? Dans le verbe impératif, c'est un pluriel ou pas? Et puis, la réponse est « yuhibbak Allah », c'est un singulier. Le frère Zalla Khairan, il vient trouver dans le livre de Cheikh Al-Albani. Mais c'est pour ça que l'édition en trois volumes, tu vas être sûr, Inch'Allah. Et en trois, tu vois, les trois volumes, c'est Fatsala. Il est là-bas, c'est le troisième, en partant du bas, je crois. Au milieu, ouais, ça. Eh bien, quoi? C'est que... Qu'est-ce que tu as, toi? Bah, lui, il a les deux erreurs dans la même édition. Enfin, je dis erreurs, je crois pas que c'est ça. Allah alim, hein. Peut-être qu'il y a différentes narrations, c'est pour ça que dans le hadith, il faut faire attention. Mais Allah alim, je ne pense pas que ce soit comme ça. En fait, ici, c'est « yuhibbukumullah ». Mais il y a une autre erreur, c'est qu'au lieu d'un « ha », c'est un « jim ». C'est « yujibbukumullah ». Mais n'empêche, ça peut que ce ne soit pas une erreur. Attention, comme dans le hadith, moi je ne connais pas toutes les narrations du hadith. « Yujibbukumullah ». Tu vois, donc c'est possible. « Faqoulou, Allah vous répondra ». Ça, c'est possible, c'est pour ça que dans le hadith, il ne faut jamais dire non, c'est faux. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un muhadith, je ne connais pas toutes les narrations. Nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est quoi? C'est d'abd al-lafd. C'est qu'on soit sûr sur l'afd, ou au moins un des alfad. D'accord? Je te remets le tien. À la koulihal, on continue sur Allahumma d'abord. Qu'Allah le préserve nous explique que Allahumma, que la lettre mim indique al-jam', c'est-à-dire comme si tu regroupes tous les noms d'Allah dans ton invocation. Et An-Nadr ibn Shumayl a dit, rahimahullah, man qala Allahumma faqad sa'ala Allah bi jami' asma'ihi, dhakarahu fi al-Fath kitab ad-da'awat, hadith numéro 6358. D'accord? C'est-à-dire que celui qui dit Allahumma, c'est comme s'il avait invoqué Allah par tous ses noms. Et c'est cité dans Fath, c'est-à-dire Fath al-Bari, chapitre des invocations, numéro 6358. Cheikh al-Uthaymin, dans son explication de Kitab Tawhid, dit que Allahumma, son sens, c'est Ya Allah, oh Allah. Et je vous assure que j'ai résumé, il y en a à dire sur Allahumma. Vous pouvez retourner à l'Islam al-Arab, par exemple. Vous pouvez retourner à d'autres sources dans la langue arabe et vous aurez plus de détails. Il dit, Cheikh, mais oh Allah, ya Allah, mais comme c'est une formule très utilisée, le nida, vous connaissez le nida, ya c'est harf nida, d'accord, a été remplacé par un mime, d'accord, et que le mime est venu à la fin du mot, c'est bien jim, mais c'est bien damir al-jam, Yujibkum Allah. Ok, donc on va prendre cela parce que ça vient des trois volumes. Yujibkum Allah. Et Allah yazikum bikhir, si un frère il peut faire la recherche, tatabu'al riwayat, si c'est faire une recherche dans les riwayat, s'il n'y a pas plusieurs alfad, et ça, franchement, ça ne m'étonnerait pas s'il y en a. À la kulihal, on se base sur celle-ci pour le moment. Faqulu amin, yujibkum Allah. Faqulu amin, yujibkum Allah. Ça va? On prend celle-là, zakallah khairan. On prend celle-là et. Et on verra la suite après, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, suivez bien un peu ici. Allahumma, c'est comme si c'était Ya Allah. Mais l'Ya, il a été enlevé, parce que c'est quelque chose qui est très utilisé par les Arabes. Et les Arabes, quand ils utilisent quelque chose beaucoup, ils facilitent. Allahumma, et le même, il est venu à gauche. Pourquoi il est venu à gauche? Mais Cheikh, il dit que le mime est venu à la fin du mot pour que le nom d'Allah puisse être à droite. Et qu'on ait la baraka par commencement par le nom d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et donc le nom commence par Allah. Ça va? Suivez un peu. Il y a Allah, le Ya, il est parti, c'est remplacé par un mime, le mime va à la fin du mot, à gauche, pour qu'on puisse avoir à droite le mot d'Allah, le nom d'Allah, et qu'on puisse donc avoir la baraka par le fait de commencer par le nom d'Allah. Tout ça pour dire quoi? Allahumma. Alors une petite anecdote concernant Allahumma, je sais que je vous cite souvent dans mes cours le sens d'Allahumma, mais j'ai cité un autre sens. C'était quoi que je vous dis dans mes cours en général, Allahumma? C'est comme, ne me faites pas peur, hein. C'est comme si tu regroupais, tu concentrais tout ton cœur sur le dua. Puis je me suis un peu inquiété quand j'ai vu toutes ces paroles. Je me suis dit, parce que ça fait des années que je l'ai lu.
Allah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Avant de rentrer dans le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire le nouveau chapitre, il nous restait à voir le quatrième point du chapitre précédent. D'accord ? Et je voudrais que vous me rappeliez après, Inch'Allah, à la fin, on m'a demandé de faire une annonce pour une fête concernant l'Aïd, qui est organisée en guise de collecte pour le Majid Sunna, hein, pour le projet de Majid Sunna que vous connaissez tous. C'est-à-dire que les frères ici... On a un projet de construire, Inch'Allah, une mosquée avec une nouvelle école, Ani Salafia, une école primaire, ainsi qu'un collège, des pompes funèbres, hein, où on peut, Inch'Allah, laver les morts, etc. Et je vous assure qu'on en a besoin. Moi, j'ai déjà été dans des morgues ici, et c'était dans des mosquées soufis, et je peux vous dire qu'on n'avait pas le choix. Et qu'est-ce que vous voyez là, et les bid'a que vous voyez là, Allah al-Musta'an. Hein, et même, je dirais, shirkiyat. Hein, donc, on va en parler en plus en détail à la fin. À la Kulli Hal, on m'a donné une annonce à faire pour le jeudi 18 novembre et d'expliquer qu'est-ce qui va se passer, où ça se passe, l'adresse, etc. Donc rappelez-moi à la fin du cours. Je pense que c'est mieux de le faire à la fin, Inch'Allah. Après ça, maintenant, on rentre dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, qui sait me rappeler le titre du chapitre, l'intitulé du cours de la fois passée, qu'on resitue un peu le cadre de ce qu'on a fait. Ouais, c'est exactement. Wujub al-qira'a fi sirriya. D'accord ? On a vu que la vie que Cheikh Bazmoul rend le plus fort, c'est quoi ? C'est qu'il faut réciter la Fatiha, comme ça. Il faut tout le temps la réciter. Il faut la réciter dans tous les cas. C'est-à-dire. Si tu pries tout seul en tant que munfarid, ou si tu pries en tant qu'imam. Hein? Évidemment, si tu pries derrière l'imam à voix basse et à voix haute. Donc dans les prières à voix basse et les prières à voix haute. Et il nous restait donc, comme j'ai dit, un quatrième point à lire. C'est le quatrième ou c'est le cinquième? Quatrième, ok. Bien, il reste quatre et cinq, donc, khair, inshallah. Le cours d'aujourd'hui, il était censé être un peu plus court que d'habitude et je l'ai fait plus long que d'habitude. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais en profiter. On est samedi soir, on est un peu plus libre que d'habitude, on est entre frères, on va faire une petite nasiha à la fin sur un sujet qui n'a rien à voir avec le livre. Hein? Je vous laisse deviner c'est quoi le sujet, Inch'Allah, pour un peu entretenir le suspense, Inch'Allah. Et c'est une technique que Cheikh Mohamed Ben Ramzan, l'Hajiri, il avait utilisée quand il était venu ici. Vous savez ce qu'il a fait quand il a donné le dernier cours? C'était quoi le sujet des derniers cours? Hein? Sur l'ennemi de l'individu. Elle avait fait courir le bruit
qu'il y avait un cours sur une mes'alat, parmi les choses les plus importantes. Ouais, évidemment, vous avez vu le monde qu'il y avait ce jour-là, au cours, hein? Il a suscité l'intérêt. D'accord ? On va essayer de faire la même chose, Inch'Allah, on va garder le sujet pour la fin. Donc, quatrième point, le mes'alat al-rabi'a, tiré du chapitre concernant l'obligation de lire la fatiha, de réciter dans les raka'at, les unités de prière à voix basse, أن المصلي في صلاته إنما يناجي الله عز وجل وأنه عليه أن لا يشوش على غيره من المصلين في هذه الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجرى بعضنا على بعض بقراءة القرآن. On avait déjà lu celui-là, non? Si, si, quand j'avais parlé de Cheikh Taqidin Hilali, non? On n'avait pas vu? Ok. فالتشويش فيها بغير القرآن ينهى عنه من باب أولى والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجر بعضكم على بعض بالقرآن. Oui, je voudrais que les sœurs ou les gens qui sont sur palto, que les sœurs qui sont à l'arrière, qu'ils n'entendent pas, qu'ils nous le fassent savoir, inshallah. Donc quatrième point, quatrième affaire, on commence ici que le prieur, lorsqu'il est en état de prière, est en confidence avec Allah subhanahu wa taala. يناجي ربه. Il se doit donc de ne pas déranger par sa prière les autres prieurs. Ça, c'est une mes'ala, il faut faire attention à ça. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit que l'on élève nos voix les uns au-dessus des voix des autres en récitant le Coran. Déranger par autre que le Coran, donc, entre en premier lieu dans l'interdiction. Ça veut dire que si c'est déjà interdit pour le Coran, même comme on dit en arabe, une babi aula, hein? Qu'en est-il alors, si vous voulez, qu'en est-il alors de ce qui est autre que le Coran, hein? Le cheikh récite une preuve. Il dit la preuve de cela est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la personne en prière est en confidence avec son Seigneur. Qu'elle fasse attention à la manière dont elle le fait. D'accord ? N'élevez donc pas la voix les uns au-dessus des autres lorsque vous récitez le Coran. Le bénéfice que l'on tire de ce point, Cheikh va dire, le bénéfice qu'on tire de ce point, وفائدة هذه المسألة تظهر إذا تذكرنا أن ضابط القراءة الجهرية أن يقرأ أو يقرأ القرآن محركا شفتيه أن يقرأ القرآن محركا شفتيه ولسانه مسمعا ما هو قريب منه وضابط القراءة السرية أن يحرك شفتيه بالقرآن مسمعا نفسه. On avait déjà lu ça, je me souviens, Allah a le main. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجزئ القراءة بتحريك اللسان والشفتين ولو لم يسمع نفسه ومعنى هذا الكلام أن المصلي في الصلاة السرية قد يحدث منه رفع الصوت أحيانا بشيء من القرآن ومنه الذكر فينبغي أن يحرص على أن لا يشوش على غيره لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية ومنه تعلم خطأ ما يفعله بعض الناس من أنه في القراءة السرية أو حينما يكونون خلف الإمام ويقرؤون سورة الفاتحة لا يحركون لسانهم ولا شفتيهم وهذه الحالة منهم لا تعد قراءة في الشرع ولا في اللغة لأنه بدون حركة اللسان والشفتين لا يقال على الإنسان أنه قارئ فالذي يقف في الصلاة لا يحرك لسانه وشفتيه في قراءة القرآن ولا في قول الأذكار في الركوع والسجود أو بدعاء الاستفتاح لا يقال إنه قارئ ولا يقال إنه ذاكر فيخرج من الصلاة كما دخل بلا أجر ولا حضور وقراءة ولا ذكر. Donc qu'est-ce que Cheikh rapporte ici concernant ce point? Il dit que on a dit la preuve, c'était quoi? C'était que le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la personne en prière est en confidence avec son Seigneur. Qu'elle fasse attention à la manière dont elle le fait, n'élevez donc pas la voix les uns au-dessus des autres lorsque vous récitez le Coran. Et Cheikh tire une faïda de ça. Il dit, le bénéfice que l'on tire de ce point est apparent lorsqu'on se rappelle que lire à voix haute, c'est quoi? De réciter le Coran en bougeant les lèvres et la langue et faisant entendre à celui qui est proche. Hein? C'est-à-dire que toute personne qui est proche peut l'entendre. Et lire à voix basse, c'est de bouger les lèvres en récitant le Coran, en se le faisant entendre à soi-même. D'accord ? Et maintenant, il rapporte l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, l'avis préféré par Ibn Taymiyyah, rahimahullah, est qu'il est suffisant de réciter en bougeant la langue et les lèvres, même si on ne se fait pas entendre à soi-même. D'accord ? Le sens de cela, c'est que le prieur, dans une prière à voix basse, il se peut qu'il arrive, qu'il lève la voix de temps en temps en récitant le Coran et en invoquant. Il lui incombe donc de faire attention, de ne pas déranger autrui. Et ça, on va arriver dans le chapitre juste qui suit sur le même genre de bénéfice et que ça revient toujours à la même chose. Le fait que l'insan ne doit pas être ghafil dans la salah. Hein? Et des fois, quand on voit certains frères prier, nous-mêmes, quand on se voit prier, subhanallah, est-ce qu'on vraiment on est attentif à ce qu'on fait? Hein? Et qu'on se rappelle le hadith du prophète A.S.S.A.L.A.M. Prie, comme si quelqu'un il fait son taudir. En français, on traduit ça par faire ses adieux. Hein? Donc, j'aime pas cette expression en français parce que adieu, hein, nous croyons en adieu. Les adieux en français, c'est avec un X à la fin. D'accord? D'accord? Donc, c'est quoi? C'est-à-dire littéralement de faire quoi? Quand on part en voyage, on fait taudir. Vous connaissez ça? Hein? Eh bien, c'est-à-dire que tu pries. Comme si c'était quoi? C'est ça que ça veut dire. Comme si c'était ta dunya. Allez, comme si tu quittais dunya. Allez, billah alaykum. Comment elle serait notre prière? Moi, je me mets dans le sac aussi. Hein. Comment est-ce qu'elle serait notre prière si on se rappelait ou si on priait comme si on quittait le monde? Ah. Alors que chaque prière parmi nos prières, elle devrait être comme ça. Wallah, yani, c'est une nasiha pour moi avant tout et pour nous tous yani, ici. Sarahatan, yani, c'est pour ça l'importance de ce genre de cours. C'est le rappel. Le rappel, il profite aux croyants. Le rappel, il ne se sent pas mal par rapport aux croyants. C'est vrai que ça peut faire mal dans le sens où on sent qu'on a mal fait. Mais qu'alhamdulillah, rahmatullah, azulillah, tawbah, elle est possible. Et justement, c'est bien de savoir pour changer. Et Bilqim, rahimahullah, hein, il a dit une belle parole dans le fawaid. Il a dit que le temps, il est divisé en deux. Il y a le temps qui est passé et le temps qui reste, le temps qui est passé, on s'est récupéré quelque chose, on s'est changé quelque chose, c'est trop tard, tout ce qu'on sait faire c'est l'istighfar et tauba. Et un temps qui nous reste, on sait combien il nous reste, là. Donc moi je dis ça ici, pourquoi? Et c'est une des raisons pour laquelle, malgré le fait que je suis très occupé, hein, j'ai vraiment voulu, j'ai fait tout pour reprendre ces cours. Et j'ai demandé conseil à certains des frères ici, etc. Je les ai consultés là-dedans. Annie, parce que moi déjà, ça me bénéficie à moi-même en préparant les cours. C'est un rappel déjà pour moi. Parce qu'en préparant les cours, évidemment, moi j'apprends des choses aussi. Hein? Et ça me rappelle. Ça me fait un rappel. Et pour les frères ici aussi, regardez la rahma d'être autant de frères ici dans une mosquée. Parmi les mosquées d'Allah Azzawajal, les demeures d'Allah Azzawajal. En plus, une mosquée des gens de la sunna. Hein, pour se refaire justement ce genre de rappel, essayer que, ben, tant qu'on peut, de quoi? De se rappeler, de changer surtout. De se rappeler systématiquement, continuellement, comme j'ai dit dans le cours passé, hein, le tafsir ou sourate al-Asr, vous vous souvenez? Et comme ça, Inch'Allah, de semaine en semaine, on a au moins deux cours par semaine. Puis vous avez la Jumu'ah, vous avez les cours avec nos frères, Hafidahumullah, Jami'an, Abu Talha, le lundi, Sharh Sunan al-Barbahari. Vous avez les cours qu'on fait ici le mardi, au Sul Sita. Vous avez mercredi qui? Abu Hakim, Sharh Hamdat al-Ahkam de Sheikh Najmi. Hein? Regardez les livres qu'ils choisissent. Lundi, vous avez l'Aqida. Mardi, vous avez encore l'Aqida al-Manhaj. Mercredi, vous avez tout ce qui rentre dans le fiqh. Naam. D'accord? Et puis jeudi, vous avez encore Abu Talha avec Riyad Salihin. Allahu Akbar. Raqa'iq. Hein? Quel livre, Riyad Salihin? Ça fait combien d'années? Hein, on va demander aux frères qui sont plus anciens, ça fait au moins 3-4 ans, non, Mourad? Hein? Plus que ça, on me dit que le frère est occupé dans ce livre-là. Hafidahullah. Puis vous avez vendredi, Sharh Aqidat l'imam Mohamed Al-Wahhab avec Abu Khadija. Samedi, encore un cours hein, que les frères croient que c'est pour les sœurs, que les sœurs, c'est pas que pour les sœurs, c'est aussi pour les frères. Mais c'est des masaïl qui touchent plus le mariage, les problèmes familiaux, etc. Hein, c'est pas que les sœurs qui sont concernées, loin de là. Hein. Et dimanche encore, hein, le même sujet, si je me trompe pas, c'est dimanche aussi à Abou Hakim. Yani, c'est-à-dire que si on veut, on peut rentrer dans une situation où on n'oublie pas, alhamdoulilah. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce que eh bien, chaque jour, en tout cas chaque fois qu'on peut venir dans la scène, eh bien, on a un rappel. Donc ici, regardez, ici, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il ne faut pas être insouciant, il ne faut pas être rafel, il faut être attentif dans la prière. Et comme on va le voir plus tard dans le cours, c'est attentif avec le cœur, attentif avec le corps, et attentif avec le nefs. Ce n'est pas que le corps qui est présent. Attention, fais attention. Est-ce que moi je ne dérange pas les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je prie bien? Est-ce que chaque geste que je le fais? Évidemment, ça rentre dans le wuswas encore une fois. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien ma prière? Est-ce que je suis bien concentré? Est-ce que je me rappelle que je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me pose la question, c'est peut-être ma dernière prière? Est-ce que je l'ai priée comme si c'était ma dernière prière? Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier ici, dans ce genre de pays, on oublie un peu la mort. Hein? Et c'est fait exprès. On nous cache. On ne parle pas de ça. Il n'y a pas de janaza dans la rue. Des gens qui marchent dans la rue. Hein? Derrière un cercueil, un linceul. Hein? Même si ici si j'utilise des cercueils, etc. Mais quand vous allez voyager dans les pays arabes, hein, c'est pour les frères Qatal Omra dans d'autres pays musulmans, et bien vous voyez, la faïda de suivre une janaza, de prier sur un mort. Puis de suivre la genèse à pied jusqu'à le baqi'a, hein? Et puis ensuite de l'enterrer. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, en tout cas, c'était en Jordanie, et je vous assure, Allah, ce jour-là, ça m'a fait un grand bien. Parce que je suis rentré dans la tombe, et moi, je suis ressorti, lui, il est resté. D'accord? Donc, on est là pour se rappeler. On ne va pas vivre ici éternellement. Hein? Peut-être demain, salat ala Mahdi, salat ala Foulan. Hein? Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un frère de la mosquée ici, 34 ans, il est mort. Hein? Omar Rahimahullah, un frère jamaïcain. Il était ici, prié avec nous à la mosquée, etc. Il est mort, Rahimahullah. Il est mort dans son lit, tout simplement. Hein? Annie, c'est. Alhamdulillah, je vois que les visages ils sont un peu touchés par ce que je dis, c'est bien. C'est un bon signe. Annie, qu'Inch'Allah, on s'en joigne à ça. Parce qu'à la fin du compte, on ne sait pas quand on va partir, comme je l'ai dit. Eh bien, il convient donc d'essayer de se préparer au maximum. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit, cheikh, ici? Il dit, en invoquant, il lui incombe donc de faire attention de ne pas déranger autrui dans la prière à voix basse et la prière à voix haute. Par cela, tu connaîtras l'erreur commise par ceux qui, dans la récitation à voix basse, ou lorsqu'ils récitent derrière l'imam la fatiha, ne bougent ni leur langue, ni leurs lèvres. Ceci n'est pas considéré dans la législation islamique ni dans la langue arabe comme une récitation. Car il faut absolument bouger la langue et les lèvres et on ne dit pas de quelqu'un qui ne la fait pas, qui ne le fait pas à fond, qu'il récite. Et on ne le considère pas comme quelqu'un qui est en train de réciter. Celui qui se tient debout dans la prière sans bouger la langue ni les lèvres lors de la récitation du Coran ou une invocation dans la prosternation et l'inclinaison ou une invocation d'ouverture, eh bien, on ne dit pas de lui qu'il récite ou qu'il invoque. Il sort donc de sa prière comme il y est entré. Regardez, maintenant, justement, le contraire, quand on est insouciant. Vous voyez quand on est insouciant? On ne fait pas attention à ce qu'on fait. Hein? Eh bien, regardez quoi? Il rentre dans sa prière, il est entré, enfin, il sort de sa prière comme il y est entré. Qu'est-ce qu'on comprend par cela? Eh bien, sans récompense, ni présence, ni lecture, ni invocation. Wal'adou billah. Vous voyez, ce n'est pas une mince affaire, Ikhwa. Il faut vraiment faire attention à être concentré sur... Et Cheikh Al-Fawzan, il dit... Wallah, Cheikh Al-Fawzan, subhanallah, il a des paroles comme ça qui sont... Il est toujours fait mahalliha. Hein? Et qui sont courtes, mais puissantes. Cheikh Al-Fawzan, parmi les paroles comme ça que j'ai retenues de lui, il dit quoi? Il dit, si tu veux savoir, comme un thermomètre, si vous voulez, si tu veux savoir le degré de ta relation avec Allah Azza wa Jal, regarde ta prière. Khalas, fini. Ah, ça c'est puissant, ya ikhwa. Wallah, ni nous, quand tu réfléchis un peu, tu te dis, quand tu vois ta prière, tu te dis, subhanallah. Bien voilà ta relation avec Allah Azza wa Jal. Cinquième affaire, cinquième point tiré du chapitre, le dernier, المسألة الخامسة. في هذا الفصل بيان أجر قراءة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Et un frère qui m'avait posé la question, on va voir ça en détail aujourd'hui par rapport à ça, pour bien voir qu'est-ce que ça veut dire. قال العلماء معنى هذا الحديث أن لقارئ القرآن بكل كلمة من كلمات القرآن أجر والحسنة بعشر أمثالها. له في كل كلمة. Regardez qu'est-ce qu'il a dit le cheikh ici. Il va expliquer après. C'est chaque mot, c'est pas chaque lettre, chaque mot. كل كلمة يقرأها حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فله بقراءة سورة الفاتحة. Regardez, vous allez comprendre. الحمد لله. الحمد كلمة. ولله كلمة. الرحمن كلمة. الرحيم كلمة. كلمة مالك كلمة. يوم كلمة. الدين كلمة. ينضم ما سر الرحيم ici. Vous avez ça aussi? Vous corrigez ça, Inch'Allah. وليس المراد بالحرف حرف الهجاء. لدخل الألفابيكم والفور إن شاء الله. فلا يقال الحمد لله فيها 19 أحرف. هذا لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألف حرف ولام حرف، ومعلوم أنه لو أراد حروف الهجاء لكان في ألف 3 وفي لام 3. والآية إنما ذكرت أسماء الحروف فتنبه. قال ابن الجزري رحمه الله ثم ذكر قولا لابن الجزري الإمام رحمه الله. On traduit d'abord ça. Il y a dans ce chapitre la mise en évidence de la récompense pour la lecture du Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit ou récite une lettre du Coran a une récompense, et chaque récompense équivaut à 10 récompenses. Je ne veux pas dire que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Évidemment, nous, ce qu'on va penser, c'est quoi? C'est la lettre elle-même, ça, oulala. Hein? Eh bien, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Les savants ont dit, le sens du hadith est que le lecteur du Coran a pour chaque mot du Coran une récompense. Kullu kalimatin. Hein? Mot. Et chaque hasana est multiplié par 10. Chaque mot qu'il lit, il a une hasana qui est multipliée par 10 dans sa lecture d'Al-Fatiha. Il a donc Alhamdu un mot. Alillah un mot. Ar-Rahman un mot. Ar-Rahim un mot. Malik un mot. Yawm un mot. Etc. Ad-Din un mot et ainsi de suite. Il y a donc pour chaque mot une hasana qui est multipliée par 10. Ce qui est voulu dans le hadith par lettre, ce n'est pas la lettre alphabétique. C'est quoi donc? On ne dit pas que donc Alhamdulillah c'est 9 lettres. Hein? Ou 10 lettres. Ceci n'est pas correct, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alifon est une lettre et Lamon est une lettre. Et il est connu que s'il voulait dire par là la lettre alphabétique Alif, eh bien c'est que quoi? Il leur dit qu'Alif donc a 3 lettres. Pour les frères, hein, regardez, imaginez-vous, écrivez Alif dans votre tête. Il y a combien, dans le mot Alif, si vous voulez, il y a combien de lettres? 3. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Fa. Alifon. Al-Hamza, Afon. Al-Hamza, Al-Lam et Al-Fa. Ça fait 3 ou pas? C'est ce qu'il dit le cheikh ici. Il dit: et Lam également 3 lettres. Et le verset n'a cité que les noms des lettres. D'accord? Je dirais le hadith, non? Cheikh, il a dit, c'est le hadith ici, c'est le hadith qui a cité que les noms des lettres. Ou en tout cas, même le verset, ça. Fais donc attention à cela. Et puis, c'est une parole d'Ibn al-Jazari, qui est décédé en 833 de l'Hégire, rahimahullah. Il dit, rahimahullah, fi akhir kitab hiya an-nasr fi al-qira'at al-ashr, fi al-fasl alladhi 'aqadahu fi umurin tata'allaqu bi khatm al-Qur'an, wa qad sa'altu shaykhana, shaykh al-Islam ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, wa huwa sahib at-tafsir al-mashhur. Ma al-murad bil-harf fi al-hadith, يعني هذا المذكور هنا. فقال الكلمة. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشرة حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الذي ذكره هو الصحيح، إذ لو كان المراد بالحرف حرف الهجاء لكان ألف بثلاثة أحرف ولام بثلاثة وميم بثلاثة. وقد يعسر على فهم بعض الناس فينبغي أن يتفطن له فكثير من الناس لا يعرفه. ثم ذكر أنه رأى أبا العباس بن تيمية يقرر هذا في كتابه على المنطق فقال: وأما تسمية الاسم وحده كلمة، والفعل وحده كلمة، والحرف وحده كلمة مثل هل وبل، فهذا اصطلاح مختص ببعض النحاة، ليس هذا من لغة العرب أصلا. إن شاء الله. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous rapporte une parole d'Ibn al-Jazari, l'imam, rahimahullah, hein, pour les frères qui ont fait un peu de tijoud, ils le connaissent, décédé en 833 de l'Hégire, qu'à lui fasse miséricorde, il a dit à la fin de son livre, « Al-Nashr fil qira'at al-Ashr », ce qui concerne les 10 récitations, dans le chapitre qu'il a consacré à des choses liées à la complétion du Coran, j'ai demandé à notre shir. Et c'est qui son shir ? Shir al-Islam, Ibn Kathir, rahimahullah, qui est décédé en 749 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui est l'auteur du fameux Tafsir ibn Kathir. Ce qu'on appelle nous en tout cas par Tafsir ibn Kathir. Il donc lui a demandé quel est le sens de la lettre dans le hadith, c'est-à-dire celui qu'on a précité. Il répondit Al-Kalima, le mot. Et ce en raison du hadith d'Ibn Mas'ud, celui qui lit ou récite une lettre du Coran a une récompense. Et chaque récompense équivaut à 10 récompenses. Je ne veux pas dire qu'alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Ce que le cheikh a cité est ce qui est juste. Car si le sens de lettre était la lettre de l'alphabet, alif serait alors 3 lettres. Et lam, 3. Ainsi que mim. Et il se peut que ce soit difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Il faut donc être attentif à cela, car beaucoup de gens ne le savent pas. Puis il a ensuite rapporté qu'il a vu dans un livre d'Ibn Taymiyyah, qui concerne le mantiq, qu'il disait cela. Le fait d'appeler le nom seulement un mot, c'est Ibn Taymiyyah qui parle maintenant, le fait d'appeler le nom seulement un mot, et le verbe seulement un mot, et la préposition seulement un mot, comme par exemple bel et hel, hein, voyons encore une fois l'importance de la langue arabe. Ceci est un jargon spécifique à certains grammairiens. Elle ne fait pas partie de la langue arabe à la base. D'accord ? Il continue en disant وَإِنَّمَا تُسَمِّ الْعَرَبُ هَدِي مُفْرَدَاتٍ هَدِي مُفْرَدَات حُرُوفًا وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشَرُ حَسَنَاتٍ أَمَّا إِنِّي لَأَقُولُ أَلِفْ لَامْ يَعْنِي أَلِفْ لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والذي عليه محقق العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحده والفعل وحده وحرف المعنى بقوله ألف حرف وهذا اسم. ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن المنطق بالزاي من زيد فقالوا زاي، فقال نطقتم بالاسم وإنما الحرف زه. ثم بسط الكلام في التقرير ذلك هو واضح. على كل حال on rentre un peu technique ici. Il dit donc, le fait d'appeler le nom, comme on a dit, hein, seulement un mot, et le verbe seulement un mot, et la préposition seulement un mot, comme « hal » et « bel », eh bien ceci c'est un jargon spécifique à certains grammairiens. Il ne fait pas partie de la langue arabe à la base. Il dit, les arabes appellent ces mots « lettres ». Et fait partie de cela, le hadith, puis il a cité le hadith qu'on a précité, ce qui est suivi comme avis par les gens de précision parmi les ulama, les muhaqiqoun, c'est que le sens de l'être ici, c'est le nom seulement, et le verbe seulement, et la préposition seulement. En résumé, toutes ces discussions, qu'est-ce qu'on doit retenir, nous ? Qu'est-ce qui est voulu ici par l'être ? Ce n'est pas la lettre alphabétique, c'est quoi ? C'est le kalima, c'est le mot. C'est ça que nous, on doit retenir. Pour les frères qui ont un peu plus facilité dans les termes, les terminologies en grammaire, hein, ben, alhamdoulilah, ils peuvent retourner aux sources qu'on a citées, ils peuvent lire le kalam ici. Maintenant, on rentre dans un nouveau chapitre, et c'est « At-ta'minu » وجهر الإمام به. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est Cheikh l'Albani rahimahullah, il dit le fait de dire Amin et le fait que l'imam le dise à voix haute. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته، وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام، فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي حديث آخر فقولوا آمين يحبك الله. J'ai pas le temps de vérifier si c'était le hadith, s'il n'y a pas une faute de frappe ici, c'est يحبكم الله ou يحبك الله. C'est peut-être une petite recherche pour vous, j'essaie de le faire pour le prochain cours, inshallah. وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. Donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, nous rapporte un nouveau chapitre qu'il a placé sous le, ou en tout cas que nous avons placé sous le titre et qu'il a placé lui-même sous le titre, le fait de dire Amin et le fait que l'imam le dise à voix haute. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, avait fini de réciter la Fatiha, il disait Amin. Amin à voix haute et en allongeant les voyelles. Il ordonnait aux gens en prière derrière l'imam de dire Amin tout de suite après que l'imam l'ait dit. Lorsque l'imam a fini de réciter غير المغضوب عليهم ولا الضالين, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés, dites Amin. Et on va voir exactement quand il faut le dire et comment il faut le dire. Parce qu'on va, il y a quelqu'un qui doit directement se poser la question. Hein? Je crois que c'est là-bas. Les trois volumes, je crois que sont là-bas. Tu auras plus facile. C'est bien que le frère cherche directement, comme ça on a la réponse directement. Comment est-ce qu'on fait? Regardez la question. Tu dois te poser la question directement. Comment est-ce qu'on fait pour dire en même temps que l'imam et en même temps le dire directement après lui? Eh bien, Cheikh Bezmoul, il a eu l'occasion, la ni'ama, de rencontrer Cheikh Al-Albani. Il lui a posé la question, il va le rapporter après, Inch'Allah. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Non pas de ceux, la traduction de surat al-Fatiha de ce verset-là, non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés, dites Amin. Car les anges disent Amin et l'imam dit Amin. Et dans une autre version du hadith, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Et c'est lui dont le Amin, c'est-à-dire le Ta'min, coïncide avec celui des anges. Et dans une autre version encore, lorsque l'un d'entre vous dit Amin dans sa prière et que les anges dans le ciel disent Amin, en même temps, eh bien, ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Et c'est une sunna sur laquelle Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il insistait beaucoup. Dans notre hadith, dites Amin et Allah vous aimera. Ou Allah t'aimera. Et bien ça, on va voir quand le frère il va vérifier ici, Inch'Allah. Hein? Il disait également, les juifs ne vous ont pas envié pour une chose plus qu'ils ne l'ont fait pour le salam, le salut, et le fait de prononcer Amin. C'est-à-dire le fait de dire Amin derrière l'imam. Maintenant, à l'explication de Cheikh Bezmoul, Hafidahullah, sur ce passage-là, ou de ce passage-là. هذا الفصل فيه مسائل وهي التالية. Il dit donc ce chapitre contient les points suivants, comme il fait chaque fois, d'accord ? Et ils sont les suivants. المسألة الأولى التأمين وهو قول آمين معناه في اللغة اللهم استجب. Pour les gens qui ont fait un peu de grammaire aussi, comment on appelle ça آمين ? اسم فعل أحسنت اسم فعل اللهم استجب وقيل معناه سبحانك يا الله وقيل معناه يا الله والمصلي إذا سمع الإمام يقرأ الفاتحة ثم وصل إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين سن له أن يقول بعد هذه آمين كما كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc vous voyez que j'avais raison la cour passée quand je vous ai dit que ce livre, en fait, chapitre par chapitre, c'est comme si on faisait quoi? Le détail du hadith. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Parce qu'on doit savoir comment. Prier comme vous m'avez vu prier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et tout ce qu'on fait, du premier cours qu'on a fait, il y a plus d'un an maintenant, hein, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin, inchallah, ce sera toujours sous ce hadith-là. Et d'ailleurs, pour les frères qui ont le livre, il est sur la... Sur la couverture, pour les livres de Cheikh Al-Albani, je parle. Hein? D'accord ? Tu veux le titre en, tu veux le titre en arabe ou tu l'as?
Donc qu'est-ce qu'on tire de ce premier point tiré du chapitre? Eh bien, Cheikh il dit, Hafidhahullah, ce chapitre, comme on a dit, contient les points suivants. Premier point, le fait de dire Amin et son sens linguistique, c'est-à-dire dans la langue arabe, c'est Allahumma stajib. Alors moi, je me suis permis de faire une petite recherche au niveau de Allahumma. Hein? Cheikh il dit, Allahumma stajib, c'est-à-dire si tu voulais, oh Allah, exauce. Hein? Eh bien, rappelle Allahumma, comme dit Cheikh Al-Uthaymeen, eh bien, c'est quoi? On va commencer par la parole du Cheikh l'Éthiopie. Le Cheikh l'Éthiopie, rahimahullah, qu'Allah le préserve et le fasse miséricorde, il nous explique que Allahumma, que la lettre mim, Allahumma, la lettre mim. Alors? Hein? C'est où? En haut à gauche. Et là, il y a encore une autre erreur. Allah alam. Bon, à la kulli hal, moi, j'ai vu dans le livre de Cheikh Bazmoul, pour les frères qui n'ont pas suivi, faqoulou amin yuhibbakallah. Et moi, ça m'a posé une question. Qoulou yuhibbaka. Vous cernez un peu ou pas? Dans le verbe impératif, il y a c'est un pluriel ou pas? Et puis, la réponse est yuhibbakallah, c'est un singulier. Bien, le frère Zallah Khairan, il vient trouver dans le livre de Cheikh Al-Albani, mais c'est pour ça que l'édition en trois volumes, tu vas être sûr, Inch'Allah. Et en trois, tu vois, les trois volumes, c'est Fat Salah. C'est, il est là-bas, c'est la troisième, en partant du bas, je crois. Au milieu, ouais, ça. Eh bien, quoi? C'est que. Qu'est-ce que tu as, toi? Bah, lui, il a les deux erreurs dans la même édition. Enfin, je dis erreur, je crois pas que c'est ça. Allah alim. Hein. Peut-être qu'il y a différentes narrations, c'est pour ça que dans le hadith, il faut faire attention. Hein. Mais Allah alim, je pense pas que ce soit comme ça. En fait, ici, c'est yuhibbukumullah. Mais il y a une autre erreur, c'est qu'au lieu d'un ha, c'est un jim. C'est yujibbukumullah. Mais n'empêche, ça peut que ce soit pas une erreur. Attention, comme dans le hadith, moi je connais pas toutes les narrations du hadith. Yujibbukallah. Tu vois, donc c'est possible, hein. Faqoulou, Allah vous répondra. Ça peut, c'est possible. C'est pour ça que dans le hadith, il ne faut jamais dire non, c'est faux. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un muhadith. Hein, je ne connais pas toutes les narrations. Nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est quoi? C'est dabt al-lafd. C'est qu'on soit sûr sur lafd. Ou au moins un des alfad. D'accord? Je te remets, tiens. À la kulli hal, on continue sur Allahumma d'abord. Qu'Allah le préserve nous explique que Allahumma, que la lettre mim indique al-jam', c'est-à-dire comme si tu regroupes tous les noms d'Allah dans ton invocation. Et Al-Nadr ibn Shumayl a dit, rahimahullah, man qala Allahumma faqad sa'ala Allah bi jami' asma'ihi, dhakarahu fi al-Fath kitab al-da'awat, hadith numéro 6358. D'accord? C'est-à-dire que celui qui dit Allahumma, c'est comme s'il avait invoqué Allah par tous ses noms. Et c'est cité dans Fath, c'est-à-dire Fath al-Bari, chapitre des invocations, numéro 6358. Cheikh Al-Uthaymeen, dans son explication de Kitab Tawhid, dit que Allahumma, son sens, c'est Ya Allah. Oh Allah. Je vous assure que j'ai résumé, il y en a à dire sur Allahumma. Vous pouvez retourner à l'Islam arabe, par exemple. Vous pouvez retourner à d'autres sources dans la langue arabe et vous aurez plus de détails. Il dit, Cheikh, mais oh Allah, ya Allah, mais comme c'est une formule très utilisée, le nida, hein, vous connaissez le nida, ya c'est harf nida, d'accord, a été remplacé par un mim, d'accord, et que le mim est venu à la fin du mot, c'est bien jim, hein, mais c'est bien damir al-jam, hein. Yujibkum Allah. Ok, donc ben, on va prendre cela parce que ça vient des trois volumes. Yujibkum Allah. Et Allah yazikum bikhir, si un frère il peut faire la recherche, tatabu al riwayat, hein, s'il sait faire une recherche dans les riwayat, s'il n'y a pas plusieurs alfad, et ça, franchement, ça ne m'étonnerait pas s'il y en a. À la kulli hal, on se base sur celle-ci pour le moment. Faqulu amin, yujibkum Allah.
فقولوا امين يجيبكم الله. صافا اون برون سيلا جزاك الله خيرا اون برون سيلا اي اون فيغ لا سويت ابخي ان شاء الله. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, suivez bien un peu ici. Allahumma, ça, c'est comme si c'était Ya Allah. Mais l'Ya, il a été enlevé, parce que c'est quelque chose qui est très utilisé pour les, par les Arabes. Et les Arabes, hein, quand ils utilisent quelque chose beaucoup, ils facilitent. Hein? Allahumma, et lui-même, il est venu à gauche. Pourquoi il est venu à gauche? Hein? Mais Cheikh, il dit que le mime est venu à la fin du mot pour que le nom d'Allah puisse être à droite. Et qu'on ait la baraka par commencer par le nom d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et donc le nom commence par Allah. Ça va? Suivez un peu. Il y a Allah, le Ya, il est parti,